Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission consacrée à l'actualité européenne. Alors face à l'urgence climatique, l'Union européenne s'est engagée dans un grand programme appelé le Pacte Vert ou le Green Deal, qui regroupe un ensemble de politiques et de législations visant à faire en sorte que l'Union européenne soit climatiquement neutre à l'horizon 2050. Il n'empêche que depuis l'adoption du Pacte Vert, l'Europe connaît une crise énergétique sans précédent, causée notamment par la guerre en Ukraine lancée par la Russie. Les prix de l'énergie flambe comme jamais. Cette hausse des prix touche aujourd'hui également les produits alimentaires, avec une inflation qui oscille entre 10 et 20% dans l'Union européenne depuis le début de l'année. Cette guerre a et aura des conséquences importantes pour nous tous, mais elle révèle aussi et surtout la dépendance européenne envers les énergies fossiles. Est-ce que cette guerre sera un accélérateur ou un frein à la transition écologique souhaitée par l'Union européenne? Quels sont les enjeux climatiques et énergétiques que pose la guerre en Ukraine? Que penser des mesures prises pour y faire face, que ce soit dans l'Union européenne, en Allemagne ou en France, sachant que les réponses des pays européens face à cette crise sont assez disparates, il faut bien le dire. Pour revenir sur ces nombreuses interrogations, nous sommes heureux d'accueillir Anna de Pernay-Grunenberg. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Madame de Pernay-Grunenberg, vous êtes députée européenne depuis 2019, apparentée au groupe des Verts ALE, donc l'Alliance Libre Européenne. Vous êtes membre de la Commission des Transports et du Tourisme, ainsi que de la délégation parlementaire dont vous êtes vice-présidente pour les relations avec la Suisse, la Norvège, l'Islande, dont, donc, comme je le disais, vous êtes vice-présidente. Alors déjà, pour un peu mieux vous connaître, Madame de Pernay-Grunenberg, vous vous présentez sur votre site web en tant que produit multiculturel européen. Vous avez une mère française, si j'ai bien lu, et un père germano-suisse. Vous avez même les trois nationalités, si je ne me trompe pas à nouveau. Vous vivez actuellement à Stuttgart, dont vous avez été élu municipal.
Exactement.
Vous avez vécu donc dans plusieurs pays européens. Alors, je voulais savoir, est-ce que cette diversité vous donne un regard différent dans votre positionnement politique? Est-ce que c'est un plus lorsqu'on est député européen?
Certainement, j'arrive à mieux comprendre les élans et des fois aussi les freins des différentes délégations, même si on a les mêmes sensibilités politiques. Parce que la crise vue, par exemple, de la France, de l'Allemagne ou de la Suisse n'est pas forcément la même. Et comme j'ai ça en moi, j'ai aussi pas tellement de difficulté de m'imaginer que si nos collègues tchèques ou espagnols ont une autre idée, que c'est pas forcément qu'ils n'ont pas le même but, mais peut-être que leur contexte national n'est pas le même. Donc c'est sûrement une aptitude à comprendre l'autre. Après, si à la fin du compte, il faut quand même que je prenne des décisions, j'espère les mettre au service du citoyen, des citoyennes européennes, tout simplement.
Et ces trois, on va dire, cultures ne se mélangent pas. Des fois, pour faire des choix, est-ce que vous dites, je suis influencé plus par la France, plus par l'Allemagne, voire peut-être la Suisse?
Je ne sais pas si j'arrive à savoir, en fait. Moi, j'ai fait des études aussi scientifiques, donc j'ai aussi mon côté quand même très scientifique et cartésien, qui me donne beaucoup d'éléments pour réfléchir. Mais c'est vrai que dans un contexte, des fois, on comprend mieux comment les collègues vont décider. Et peut-être, on arrive à trouver aussi une solution qui plaira peut-être à deux pays. Et justement, dans la crise énergétique, on voit que les pays ont des différentes réponses, en fait, très disparates, qui correspondent à leur contexte, mais qui, à un niveau européen, peut-être pas la meilleure solution pour nous tous.
Ça me fait aussi penser au fait que vous êtes donc dans le groupe des Verts. On regarde souvent les Verts. Là, vous êtes les Verts allemands sont dans la coalition gouvernementale avec des libéraux et donc le SPD, les sociodémocrates. Vu d'ici, nous, les Verts, sont quand même plus sur un échiquier à gauche. Aujourd'hui, c'est dans une coalition qui est quand même très à gauche. Est-ce que cette différence se ressent au Parlement? Est-ce qu'il y a une différence quand vous discutez entre les Verts français, les Verts allemands? Est-ce que vous le ressentez sur des sujets précis ou pas du tout? Finalement, le côté écologiste est primordial.
Je pense que le côté écologiste est vraiment primordial. Nous, en Allemagne, c'est pas très connu en France, mais nous avons aussi des coalitions. Nous avons fait des coalitions, par exemple, à Berlin, aussi avec la gauche ou l'extrême gauche, comme nous l'appelons. Donc, nous sommes aussi capables d'un point de vue, on va dire, pragmatique, si les majorités le demandent et que le projet commun est en phase avec nos convictions profondes, à faire d'autres coalitions que celle qui est actuellement au gouvernement fédéral allemand. Donc, en fait, nous comprenons, en fait, que les Français sont maintenant dans l'opposition, dans cette construction qui s'appelle la NUPES. Et ça ne dérange pas, ça amplifie, on va dire, peut-être certains réflexes de pensée. Mais à la fin du compte, quand on se met à parler des sujets de fond, on voit bien qu'on est écologiste tout d'abord.
Alors la guerre en Ukraine, comme j'ai dit, a provoqué une crise énergétique dans l'Union européenne qui s'accompagne aujourd'hui d'une crise sociale liée à la flambée des prix. Alors la question que je voulais vous poser, c'est essentiellement, n'y a-t-il pas un risque que cette guerre freine la transition écologique et empêche l'Union européenne d'atteindre ses objectifs de neutralité climatique ?
C'est une question compliquée. Je pense que c'est justement les dirigeants politiques qui doivent maintenant donner les bonnes réponses. C'est-à-dire en premier lieu, regarder là où il y a vraiment des crises sociales. Et nous le voyons, et c'est ça qui est incroyable, c'est les fossiles de la Russie qui sont touchés, mais en fait, ça impacte l'alimentation. On a une crise aussi du bois, enfin, toutes les autres denrées, en fait, en découlent, et il y a des augmentations des prix, et les personnes ne reçoivent pas ni plus de retraite, ni plus de salaire. C'est très, très lent à augmenter. Donc, en fait, ça met beaucoup, beaucoup de familles dans des situations très précaires, et en plus, qui font peur. On n'arrive pas à prévoir. Et ça, je pense que c'est les premiers pas à faire. Il faut soutenir les familles et les individus qui en souffrent le plus. Par contre, en même temps, et vraiment en parallèle, il faut toujours se poser les questions. Ces subventions, est-ce qu'elles sont de manière à long terme, justement, promouvoir, on va dire, les idées, les alternatives, l'électrique, ceux qui aussi produisent moins, qui produisent plus avec moins d'énergie. Est-ce qu'on a quand même des mécanismes pour, en fait, les mettre en avant? Parce que si on ne subventionne que, on va dire, les fossiles, on remet, en fait, vraiment, en fait, de l'huile sur ce qu'on veut passer. C'est outre. Et donc ça, c'est vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait dans le moment qui est dur pour certaines personnes, mais justement, à long terme, mettre aussi, on va dire, un favoritisme envers ceux qui ont déjà des façons de produire avec moins d'énergie.
Les actions entreprises, par exemple, par le gouvernement allemand pour lutter contre les effets de cette crise énergétique, ont dit que le gouvernement allemand a investi près de 300 milliards d'euros pour lutter contre les effets de la crise. Finalement, si on avait mis une grande partie de ces 300 milliards dans la transition écologique, et je dirais vers l'énergie renouvelable, peut-être qu'on aurait résolu une bonne partie du problème, non ?
On a fait énormément pression parce qu'on a exactement cette opinion. Et là, on a d'ailleurs décidé de mettre un paquet de 100 milliards contre le changement climatique, donc dans des technologies nouvelles. Ça, c'est vraiment, il faut faire les deux en même temps. Et comment vont être dépensés les 300 milliards, ce n'est pas encore clair. Il y a vraiment là une grande discussion en interne. Et nous, en tant que députés européens, forcément, on a aussi la vision, on va dire, européenne de tout ça. On n'a pas l'envie du tout de passer pour, on va dire, des égoïstes allemands qui vont mettre cet argent dans leur industrie qui dépense encore plus de gaz. Donc, on n'a ni l'effet sur le changement climatique souhaité et ni on a une solidarité envers les autres entreprises et les autres pays européens. Donc là, c'est vraiment une question. Ça a été défini qu'on va avoir ces subventions, mais on veut surtout alléger en fait les foyers en difficulté et on veut aussi avoir des programmes de transformation justement. On a certaines entreprises qui sont en Allemagne aussi seulement, on va dire, compétitives parce qu'elles font les choses très, très vite, avec beaucoup, beaucoup d'énergie. À la fin du compte, on pourrait produire certaines denrées, on va dire, à des températures moins élevées. Et on est peut-être moins compétitif sur un plan mondial. Mais à la fin du compte, on aura besoin de moins d'énergie. Donc, en fait, ça, c'est des choses qu'on veut peut-être compenser et ne pas mettre ça en avant que, le old business en Allemagne. Ce serait vraiment quelque chose qui serait singulier dans l'Europe. Et nous, en tant qu'écologistes, en tout cas, on s'est toujours battu contre, les pays qui mettent en avant leur économie solidairement et ne regardent pas le reste de l'Europe.
Mais il y a un des moyens, c'est comment on finance tout ça. Alors, certains aujourd'hui se demandent s'il ne faudrait pas faire une taxation de ce qu'on appelle en France les super profits. Est-ce que c'est un sujet d'actualité en Allemagne, ça, la taxation ?
Très, très actuel. Exactement. La taxation des surprofits, c'est quelque chose qu'on veut. D'ailleurs, malheureusement, on a voté là juste avant, il y a une demi-heure, c'était plutôt un peu sceptique au niveau du Parlement, à un niveau de la totalité, mais on avait quasiment une moitié. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment parler sérieusement de ça. Nous, on veut un plan de solidarité européenne. On veut un plan énergétique et de climat européen. Et on veut soutenir les entreprises dans toute l'Europe. Donc, il nous faut bien sûr une rentrée d'argent et les surprofits. Ceux qui profitent là maintenant de la crise, c'est vraiment là où il faut aller chercher l'argent, et après mettre des critères, on va dire, comme j'expliquais avant, de mesures immédiates et de mesures à moyen et long terme.
Alors nous, en France, on a un peu ce sujet. Tout le monde est à peu près d'accord pour les super profits, mais certains disent que c'est au niveau de l'Union européenne qu'il faut le faire, c'est le gouvernement, et d'autres qui demandent à ce que ce soit fait déjà au niveau national. Vous, quelle serait votre position là-dedans, et est-ce que c'est réaliste de penser que ça peut être fait au niveau de l'Union européenne ?
Là, on peut le faire à un niveau de l'Union européenne. On a là un phénomène qu'on connaît très bien, c'est que les chefs d'État disent qu'à un niveau national, ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas vraiment 100% vrai. À un niveau technique, ça marcherait. Mais par contre, il y aurait un vrai problème au niveau du marché intérieur commun. Ça, c'est vrai. Si on a un pays qui le fait, l'autre pays pas, on va avoir des entreprises qui vont bouger à l'intérieur du marché commun et ce n'est pas du tout le but souhaité. Donc, ce serait vraiment plus intelligent de le faire à un niveau européen. Par contre, ce qui ne va pas, c'est dire à ses propres citoyens on ne peut pas le faire qu'en France ou qu'en Espagne ou qu'en Allemagne. Et après, quand les chefs d'État arrivent au Conseil, être contre dans la totalité du projet quand ils discutent avec le Parlement. Et c'est souvent ce qui arrive. En fait, c'est très simple de mettre, en fait, comme le méchant, c'est l'Union européenne. Mais ensuite, il va falloir que les États membres soient pour qu'on réussisse à le faire à un niveau européen.
Là, il y a quand même, c'est une position, il pourrait y avoir... il faut que tout le monde soit d'accord, c'est bien
oui,
ça.
Oui, il faut qu'il y ait une unanimité. Mmh. Et à la base, normalement, si on a un programme, et là, je pense que ça va dépendre de ça, si on a un programme où tous les États membres s'y retrouvent dans la dépense de cet argent... il va y avoir une possibilité. Par contre, il va y avoir des forces qu'on connaît, toujours les mêmes, qui vont dire « oui, mais les grandes entreprises vont partir d'Europe, on connaît la chanson, c'est toujours la même chose ». Moi, je pense que les citoyens et citoyennes sont très, très clairs là-dessus. S'il y a des surprofits grâce à la crise qui est tellement horrible pour tellement de gens et dont la cause est aussi tellement horrible, il n'y a aucune raison de ne pas prendre ces taxes et les redistribuer à ceux qui en ont besoin ou aux entreprises. Ou aussi aux personnes du monde agricole qui veulent changer leurs pratiques vers le moins fossile.
Il y a le salon de l'automobile qui a ouvert à Paris et il y avait un dirigeant d'une grande entreprise française, mais ça peut peut-être rejoindre aussi, vous qui êtes de Stuttgart, des grandes entreprises de l'automobile allemande. Donc lors de ce salon de l'automobile, Carlos Tavares, qui est le PDG de Stellantis, qui regroupe donc Peugeot, Citroën, qui déclarait qu'avec la décision donc, d'interdire ce qu'on appelle les voitures thermiques d'ici 2035, donc, il disait donc que l'Union européenne a pris des décisions dogmatiques sur ce sujet. Et qu'ainsi l'Union européenne a déroulé un tapis rouge aux Chinois qui sont beaucoup plus compétitifs sur le sujet, sur les questions des batteries et des voitures électriques. Alors déjà, que pensez-vous de ce type de propos ? Est-ce que ça se dit aussi de l'autre côté de la frontière en Allemagne ? Et ensuite, faut-il que l'Union européenne se protège des produits chinois, notamment sur les questions des voitures électriques ?
Alors oui, c'est plusieurs questions en une seule. Je pense que certaines entreprises chinoises sont beaucoup plus compétitives aujourd'hui parce que l'État chinois a été beaucoup plus strict en amont. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est rattraper. Et moi, je trouve que la plupart, je suis très étonnée des propos de Stellantis parce que la plupart des grandes entreprises automobiles ont déjà déclaré sortir du thermique en 2030. Donc il y a quand même certaines entreprises qui ont compris un peu l'air du temps. Je veux dire, les personnes qui travaillent dans l'automobile, ils ont aussi des enfants, ils ont aussi une vision sur la vie et le monde et ils voient bien que le dérèglement climatique, c'est quelque chose de terrible dans l'avenir. Donc en fait, il y a aussi quand même beaucoup de personnes, même dans l'industrie, qui bien sûr veulent être du bon côté, on va dire, de l'histoire, même si souvent l'action est un peu plus lente, je dirais. Et donc c'est à nous, on va dire, les politiques, les représentants des citoyens, des citoyennes, de mettre la pression. Et c'est l'inverse. Il faut que nos entreprises automobiles changent de cap si elles veulent rester compétitives dans l'avenir. Donc c'est exactement, là j'ai l'opinion inverse. Il faut vraiment que nos entreprises se mettent à la page du jour. Et là, aujourd'hui, par exemple, en plénière, on a décidé d'un réseau de bornes pour charger les voitures électriques qui va être un maillage très, très fin sur toute l'Europe pour que justement les consommateurs sachent bientôt on va pouvoir acheter une voiture électrique. Nous, on pense bien sûr en tant qu'écologistes, il ne faut pas remplacer le moteur à combustible que par l'électrique et chacun sa voiture. Il va falloir avoir des concepts de transport public beaucoup plus poussés et aussi beaucoup plus de partage de voitures, des systèmes avec le digital. On a beaucoup de nouvelles aventures qui peuvent nous donner une mobilité au quotidien très agréable et en même temps avec moins de ressources. Donc en fait, je pense que la deuxième partie de la question...
La deuxième question, c'est est-ce que l'Union européenne peut protéger les entreprises européennes de cette concurrence chinoise ?
Oui,
est-ce qu'il y a moyen ?
Elle peut le faire et elle devrait le faire. Alors, je dirais en premier lieu, comme élément de réponse, il ne faut pas avoir peur que les entreprises européennes s'en aillent. Ça, c'est toujours un peu un réflexe, car le marché européen interne est le marché à un niveau de sa, pouvoir d'achat le plus grand du monde. C'est-à-dire qu'aucune entreprise, et c'est bien pour ça que si on reste unis en tant que pays européen et qu'on arrive à mettre des standards écologiques et sociaux très hauts, en fait, on impose quand même un standard minimum, on va dire, aux entreprises du monde entier, si elles veulent utiliser notre marché commun, ce qui est quand même un levier très important. Il faut vraiment qu'on en soit tous conscients que c'est un cadeau, en fait, d'avoir ça, puisqu'on peut mettre, en fait, nos valeurs en avant et obliger les entreprises à changer de cap. Et en deuxième lieu, je pense que oui, l'Union européenne devrait, et elle commence avec la proposition de l'ajustement de carbone aux frontières, d'avoir des mécanismes qui fait que les produits importés, par exemple aussi avec la loi contre la déforestation, si on a certains comportements qui sont mauvais pour toute la planète, donc là en Amazon par exemple avec la déforestation, on ne devrait pas importer de produits de ces régions-là. Et si on fait une taxe à l'ajustement carbone, on va aussi regarder est-ce que dans les autres pays, il n'y a pas une émission de carbone excessive, et nous, on l'a fait rentrer, on se dit, tiens, on a acheté des beaux produits qui ne polluent pas, et ce n'est pas vrai, donc on va avoir cet ajustement aux frontières. L'Union européenne a des moyens de mettre en avant, on va dire, les bons produits.
Alors, je vais vous proposer de faire une petite pause, ouais. Mais ça sera une pause non pas musicale, mais où je vais vous poser des petites questions courtes, réponses courtes. Ouais. C'est une rubrique qui s'appelle « Catch the Eye ».
Je vais passer la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
Comme on dit, c'est réponses courtes, questions courtes, réponses courtes. Alors, je vais essayer d'avoir des questions courtes. Pour vous, quel est le plus grand succès de l'Union européenne ?
Le grand succès de l'Union européenne, c'est la paix et c'est le marché commun où on arrive à mettre des standards.
Et un échec, s'il y en a un pour vous ?
Un échec, c'est que le Green Deal était une superbe idée, mais là, qu'on descend énormément nos ambitions par rapport au changement climatique.
Vu que vous étiez multiculturel, quelle est votre langue préférée ?
Ah là, je ne peux pas choisir entre l'allemand, le français, l'anglais, l'espagnol. La langue préférée, je ne sais pas.
Vu que vous êtes quelqu'un qui bougeait, qui connaissait plein de lieux, un lieu que vous aimez particulièrement ou une exposition que vous voulez partager, un livre à conseiller à nos auditeurs ?
Moi, je trouve que dans nos vies très, très digitales, j'adore aller en nature. Donc, en fait, je pense que chacun a un arbre préféré quelque part. Et si on ne le connaît pas encore, il faut aller à la recherche de cet arbre. Et si on le connaît, il faut y aller souvent.
Bon, j'espère qu'on trouvera le temps. On parlera encore de forêt avec vous. Alors, j'aimerais, pour enchaîner, revenir si vous parliez des différents modes de déplacement. On parle souvent du train. En Allemagne, vous avez instauré un ticket à 9 euros. J'aimerais savoir comment vous expliquez que ce genre d'initiative, déjà, vous ayez pu le faire, que ça, par exemple, en France, on ne le voit pas. Et ensuite, ça a aussi mis en difficulté et a montré aussi les difficultés qu'a la Deutsche Bahn pour faire face à cela, et en le sens où le réseau est quand même assez lent et a quand même quelques difficultés.
Alors en fait, on va dire, ce fut une expérience. Ça a duré 3 mois et ça a été mis en place lors d'un grand paquet en fait, pour soulager les citoyens et les citoyennes. Et on s'est dit, on ne peut pas seulement agir sur le prix de l'énergie, de la consommation, il faut aussi agir sur la mobilité et surtout sur la pauvreté de mobilité, parce que c'est vraiment un thème. Et les transports publics en Allemagne sont très, très différents au niveau des prix, mais sont assez chers. Et il y a eu cette idée, en fait, de faire un ticket commun. Donc, c'est pour tous les services publics dans les villes et aussi pour les trains régionaux, pas les trains à grande distance. Mais ce qui a permis, par exemple, aussi à la jeunesse, qui avait quand même eu des mois très difficiles avec le confinement auparavant, de circuler dans toute l'Allemagne. Moi, mes enfants sont, par exemple, allés à Berlin avec les trains régionaux. Ils ont mis beaucoup, beaucoup d'heures du sud de l'Allemagne, mais ils ont beaucoup aimé. Et ça a fait démontrer quand même le potentiel, quand on baisse les prix énormément, qu'on peut mettre des personnes, leur donner goût en fait au transport public. On a eu des problèmes, c'est qu'on a eu des trains surchargés. Et on a eu aussi, après, la grande question, alors mettre autant, parce que c'est subventionné évidemment, le train c'est un service, il faut payer le personnel, donc ce n'est pas gratuit pour une société, donc ça a été énormément subventionné. On s'est rendu compte que dans beaucoup de régions, ils auraient préféré avoir un ticket plus cher, mais avoir plus de services. Et donc en fait, là on est revenu, maintenant on a un ticket à 49 euros par mois, pour toute l'Allemagne, tous les services publics, sauf les grandes distances, c'est toujours la même chose. Donc on revient un peu parce qu'on a quand même besoin de rentrer d'argent pour améliorer nos services. Et la Deutsche Bahn a vraiment, depuis 15 ans, malheureusement, on n'a pas assez investi. On a vraiment des problèmes aussi au niveau du réseau. Donc on a beaucoup de trains qui sont en retard. On a vraiment en fait beaucoup de choses à rénover au niveau de la Deutsche Bahn. Donc en fait, c'est une aventure qui nous a démontré le potentiel d'une telle mesure, mais qui nous a montré aussi les limites des infrastructures.
Mais ça pose aussi la question, est-ce que ce genre de choses peut être réglé au niveau européen ? On voit bien qu'en France, le train, c'est aussi cher. Hein, c'est des fois pas cher, mais il faut trouver le bon moment pour le prendre ou très longtemps à l'avance. On voit qu'il y a ces difficultés. Là, c'était l'année dernière, l'année européenne du rail auquel vous avez participé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager à prendre le train ? Si déjà, on ne va pas utiliser la voiture électrique de la même façon que les voitures actuelles.
Oui, j'étais rapportrice de l'année européenne du rail. C'était une aventure vraiment assez spéciale et très pleine d'engouement, je dirais, de beaucoup d'acteurs. Le problème avec le rail, c'est que vraiment les infrastructures sont très, très différentes sur les pays. Et aussi les façons de faire les tarifs, même en Allemagne, ils sont très différentes selon chaque ville et selon chaque Länder. Et je ne sais pas, dans les autres pays, c'est des fois régional, des fois c'est national. Donc je pense que peut faire l'Union européenne, c'est quand elle met de l'argent, par exemple, pour refaire tourner l'économie après le confinement, de ne pas seulement mettre une ligne 40%, ce serait bien que ce soit en vert, on va dire, les technologies bas carbone. Il faudrait que ce soit plus précisé, il faut investir dans le rail. Parce que sur cet argent-là qui a été distribué dans les pays européens, je sais que l'Italie a mis vraiment une grande partie de cet argent, plusieurs milliards, dans le fret. Par contre, si on n'a que l'Italie qui est, on va dire, top au niveau du fret, mais qu'après, en France ou la Suisse, elle est assez top aussi, mais après, en Allemagne, nous, on n'a pas investi, ça ne nous fait pas un réseau. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est que dans le rail, il faut, si on veut penser européen, il faut penser en réseau. On a des opérateurs très différents, avec des histoires très différentes. On a même des fois des normes différentes au niveau des rails. Au niveau aussi du savoir et on va dire des normes de sécurité par rapport aux cheminots sont complètement différents. Donc c'est vraiment compliqué, mais je pense que l'Union européenne devrait prendre, en tout cas, quand elle distribue de l'argent, mettre plus de normes et dire si on investit, pas qu'il y a un pays qui investit dans le digital pour le passager, l'autre pour le fret et le troisième, il répare ses ponts avec. À la fin du compte, on a trois systèmes qui ne vont pas avec. Il faudrait mieux investir on va dire en commun, ou en tout cas avoir un plan commun. On est en train de faire un plan d'action pour le rail, et pour le fret et pour les passagers au niveau de l'Union européenne. Malheureusement, il n'est pas obligatoire. Donc, c'est toujours les beaux papiers de l'Union européenne. On y travaille beaucoup et à la fin du compte, les États membres ne veulent pas que ça devienne obligatoire.
On va quand même essayer de suivre. J'espère qu'on avancera sur ce sujet. Je crois que je suis pas le seul. Alors, vous êtes spécialiste de sylviculture, de la forêt. C'était même, je crois, vos études et votre métier.
C'est ça.
Et vous avez réalisé pour votre groupe, hein, je ne crois pas que ce soit au niveau du Parlement, une étude sur la préservation des écosystèmes forestiers, si j'ai bien suivi. J'aurais voulu savoir quel est le constat que vous avez fait déjà et que préconisez-vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors ça, c'est vraiment mon sujet, on va dire, de cœur et de fond, la forêt. Alors la forêt est vraiment très... Enfin, il y a énormément de forêts en Europe, hein, 40% du territoire est recouverte de forêts. On n'a pas de définition commune en Europe, donc ça, c'est un peu problématique, parce que ce que nous, on appelle la forêt, peut-être en Scandinavie ou dans les pays du Sud, ça ne va pas vraiment avoir la même définition, donc c'est difficile. Ça, ce serait un premier lieu. Il faudrait qu'on sache c'est quoi les vraies forêts, on va dire, près de la nature et celles qui ressemblent plutôt à des plantations, monoculture, mono-espèces. Et le grand problème, moi, je pense que c'est la coupe rase. C'est un modèle, en fait, hyper industriel où on utilise la forêt juste pour le bois. Et toutes les autres fonctions qui sont très importantes pour toute la société, c'est-à-dire que le sol de la forêt est un énorme puits de carbone. Bien sûr aussi, c'est un endroit où peut se développer la biodiversité, mais aussi notre eau est retenue. Donc en fait, contre
la sécheresse,
mais aussi contre les glissements de terrain, tout ce qui est inondation. En fait, quand il y a de la forêt, c'est vraiment une sécurité énorme pour les populations. Et si on l'utilise que comme fabrique de bois, en fait, on n'utilise qu'un pan et on réduit en fait la résilience des forêts. Et là, on voit que les forêts européennes, elles sont en gestion complètement différente. Et on a remarqué qu'on a du mal aussi à faire une politique, on va dire, commune forestière, alors que l'Union européenne est garant en fait dans les traités du climat et de la biodiversité et n'a pas vraiment la force de mettre en place des lois pour...
Hormis dans ce qu'on pourrait appeler les espaces Natura 2000 ou ce genre de choses.
Exactement. Là, c'est protégé, mais là, c'est autre chose. Alors, bien sûr, mais on a aussi du mal. Hein. Quand on voit en Roumanie, on a des forêts qui sont vraiment des forêts vierges.
En Pologne aussi, oui.
On n'arrive pas vraiment à faire respecter ces lois-là. Donc ça, on y travaille. Mais aussi, on va dire, dans un mode de sylviculture normal, parce qu'on a quand même besoin de bois. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne veux pas mettre toute la forêt sous cloche. On a besoin de bois, mais on a vraiment des façons de gérer les forêts où on prend en fait les arbres un par un, on ne va pas détruire le sol, on n'a pas des mono-espèces, on a une vraie richesse. Et en fait, réapprendre ça, et on voit en fait dans toute l'Europe, on a dans chaque pays des forêts comme ça, qui sont gérées de manière proche de la nature, qui donnent en fait du bois et tous les autres services. Et par contre, on a dans beaucoup de pays, on va dire 80-90%, c'est ce qu'on a vu dans cette étude, qui démontre que c'est juste en fait replanter et tous les 80 ans, c'est coupé à des centaines d'hectares en fait. Hein. Et c'est souvent un peu loin, on va dire, des endroits touristiques, c'est loin de là où passent les gens. Donc en fait, c'est fait quand même. On voit dans les Pyrénées, en France, il y a des grands espaces qui sont coupés à ras. Et par contre, le long des GR, il y a des forêts un peu plus sympas. Donc en fait, on voit bien qu'il y a et par contre, on a besoin de cette puits de carbone. Et il y a une idée qui s'est un peu mise dans la tête des gens. C'est que oui, mais ça repousse. Donc le CO2, il va être repris. Mais nous, on sait maintenant que ça met 40, 50, 60 ans. En fait, quand ces petites tiges, elles sont replantées. Souvent, c'est la sécheresse. Elles n'arrivent pas à prendre pied. Donc on en replante. À la fin du compte, pour que la vraie forêt redevienne vraiment forêt, il y a besoin de plus de 100 ans. Et souvent, quand on a détruit les sols, on le voit encore pendant plusieurs centaines d'années. Et là, le problème avec le CO2, on l'a dans les décennies à venir, pas dans 100 ans.
Et on
le
voit aussi avec les incendies de forêt qu'il y a tous les étés. C'est aussi souvent lié à des problèmes d'entretien des forêts.
En fait, c'est que ce n'est pas laissé assez naturel, hein, d'une certaine manière. Alors, on peut faire soit la réponse peut être soit on fait de l'hyper-industriel et on nettoie tout par terre et en fait, on fait de l'agriculture en forêt. Mais c'est pas des vraies forêts et il y a des énormes risques hein, parce qu'après on a les coléoptères et tout ça qui viennent quand c'est pas un vrai écosystème forestier qui se défend lui-même. Et de l'autre côté on a plutôt le plus de nature qui bien sûr fait que la valeur bois augmente. Mais faut se rappeler quand même que la moitié du bois produit en Union européenne, elle est brûlée et utilisée à des fins énergétiques. Hein. Donc, en fait, c'est ça qu'on veut arrêter.
Alors, j'aimerais terminer parce que je crois qu'on est vraiment au bout de l'émission. On a consacré beaucoup de temps à toutes ces questions et merci pour vos réponses. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet qui est un peu plus local. C'était pour les 60 ans du jumelage entre Strasbourg et Stuttgart. Vous avez été à la base à une initiative d'un nouvel itinéraire cyclable que vous avez appelé Bio-Véloroute, je crois, entre Strasbourg et Stuttgart, donc un itinéraire de 4 jours. Vous pouvez juste nous en parler brièvement parce que ça peut peut-être intéresser les gens, peut-être pas en plein hiver. Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il faut plutôt avoir un vélo électrique? Est-ce qu'on peut le faire tranquillement? Et en quoi ça consiste? Quel était le but de cette initiative?
Alors, tout le monde peut le faire. On peut le faire. Là, en automne, je pense que c'est magnifique, la forêt noire avec les couleurs. C'est 209 km. Nous, on l'a fait tranquillement en 4 étapes. Il y a des gens qui l'ont fait plus rapidement. Si on aime les montagnes, on peut partir en vélo, on va dire... avec les jambes, pur et dur.
Sans assistance.
Et nous, on l'a fait avec le vélo électrique. C'était très agréable, j'avoue. Et en fait, l'idée, c'est de rejoindre en fait tous mes thèmes. Donc, la biodiversité, la sylviculture, l'agriculture et la mobilité sur un projet très, très local entre deux villes qui me tiennent à cœur. Donc, Stuttgart et Strasbourg qui sont jumelées. C'était, je pensais aussi, un message à dire, même entre ces deux pays, il y a eu d'énormes conflits guerriers. Et quelques dizaines d'années plus tard, on arrive à faire une délégation franco-allemande qui fait du vélo ensemble. On s'est beaucoup amusé. On a vu les castors dans le parc alluvien.
On peut retrouver le parcours, je crois, sur votre site web ou quelque part.
Oui, en fait, il est même, c'est un U-Map, ça s'appelle. C'est une façon digitale. On a voulu faire quelque chose de très, très moderne. On peut le faire downloader, en fait, sur tous les programmes actuels ou Komoot ou comme ils s'appellent tous. Et on peut regarder sur ma page. Donc, on peut se faire vraiment guider pour ne pas se perdre. Et on a, en fait, tous les points d'intérêt où on voit les différents animaux, les plantes, comment elles sont revenues et aussi les programmes de l'Union européenne qui ont participé.
Ah ben, un grand merci, donc, Madame de Pernay-Grunenberg, pour toutes ces informations. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.